Bonjour à tous.
La valeur d'un monstre s'apprécie à la peur qu'il inspire. Si vous n'êtes pas effrayant, comment pouvez-vous prétendre être un monstre ?
Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins où cette semaine, alors que le 69e Festival de Cannes s'est ouvert hier, c'est avec Steven Spielberg que nous philosophons. Monstre du cinéma, nous n'avons pas cessé de croiser depuis lundi les créatures fantastiques auxquelles il a donné vie ou les pires monstruosités qu'il a ressuscitées pour qu'on ne les oublie jamais. Après donc l'aventure, chemin vers le monstre, l'enfance, monstruosité merveilleuse, l'histoire et ses héros qui luttent contre l'horreur, rencontre aujourd'hui avec ce fameux monstre. Et toute l'équipe des Nouveaux Chemins est une créature fantastique. Colomba Grossi, Marianne Chassor, David Pargamin, Antoine Ravon, Lucie Tardy, Marie Aubert, sans oublier bien sûr Adèle Van Rett, avec à la lecture des textes cette semaine Vincent Schmitt, à la réalisation Peyret Legras et à la prise de son aujourd'hui David Federman. Fantômes et revenants, cyclopes, dragons, la créature de Frankenstein, succube et incube, poupée sanglante, zombie, oiseau, maison hantée, loup-garou, homme-mouche, Freddy Krueger, araignée géante. La liste des monstres est une liste impossible. Elle n'a pas de fin, elle est sans exhaustivité. Mais bizarrement, si elle parvient encore à nous surprendre, elle ne nous est jamais totalement étrangère. C'est que tout aussi bizarrement, on s'habitue à la monstruosité. Ces écarts avec nos normes restent toujours compréhensibles, mesurables, envisageables. Car il s'agit bien encore de lui découvrir un visage. Des visages de monstres, Steven Spielberg en a mis dans tous ses films. Requins, dinosaures, extraterrestres et même un camion dans son tout premier film. Et même cette course-poursuite avec un poids lourd prenait la forme d'une chasse à l'homme, d'un duel où les phares du véhicule s'allumaient comme des yeux s'injectent de sang. C'est bien connu de parler de la monstruosité comme d'une perturbation de l'ordre qui préserve malgré tout cet ordre, qui le menace pour mieux le renforcer, l'interroger, pour le mettre en miroir. Le monstre, miroir de l'homme, rien de plus admis, rien de plus normé. Alors, que reste-t-il encore de monstrueux à dire du monstre quand on n'en a pas tout dit, mais qu'il restera de toute façon toujours à en dire? Jeu avec les limites, déformation de nos matières et manières, réflexion de l'homme. Pourrait-on envisager un pur monstre, une pure altérité qui s'annonce d'elle-même et ne revient pas pour frapper l'homme dans ses dérives, mais seulement l'accompagner et l'élever? Eh bien, éclairage aujourd'hui sur les figures et les problématiques du monstre chez Steven Spielberg, avec Pascal Coutet, qui enseigne le cinéma et l'esthétique au département art du spectacle de l'université de Caen-Normandie, qui a soutenu en 2012 une thèse sur les figures de l'humain et de l'inhumain dans le cinéma de Steven Spielberg, et qui est l'auteur de Forme et Obsession du cinéma américain contemporain, avec Vincent Amiel. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Tu viens pas dans l'eau ?
C'est bon.
Sur l'Indianapolis ?
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Un sous-marin japonais nous a mis deux torpilles par le travers avant, voilà, chef. Ça s'oublie pas, ça. On rentrait d'une mission dans l'île de Tinian, on avait livré une bombe. Celle d'Hiroshima, la bombe. On sent marin à la baille. Le navire a coulé en 12 minutes. On est resté sans voir un requin pendant près d'une heure. Tout à coup, un 4 mètres. Vous savez comment ça s'évalue quand on est dans l'eau, à la distance entre la dorsale et la queue. Mais nous, on n'en savait rien. Le coup de la bombe avait tellement été gardé secret qu'aucun signal de détresse était parti. On est resté 8 jours sans être porté manquant. Aux premières lueurs de l'aube, les requins commencent à rôder. Alors on a formé des genres de groupes compacts. Comme les carrés qu'il y avait dans les batailles dans l'ancien temps. Voyez ce qu'ils ont fait à Waterloo. Alors on s'était dit, si un requin approche de trop près, le premier rang se débattra dans l'eau. Il gueulera, il se remuera. Des fois ça suffit, le requin fout le camp. Mais des fois ça marche pas, il reste là. Si vraiment il s'incruste, alors là, attention, il vous regarde droit dans les yeux. Et je vais vous dire, moi, ça a des yeux. Sans vie, sans rien, une paire d'yeux tout noirs, des yeux de nounours. Quand il s'approche de vous, le requin, il n'est pas vivant. Jusqu'à ce qu'il vous happe. Là, ses petits yeux noirs, ouh, ils deviennent blancs. Et alors, on entend des cris terribles qui vous percent les tympans. Et l'océan est tout rouge. Et malgré qu'on se débatte, qu'on gueule, qu'on hurle, ça grouille de partout. Et ça vous met en pièces.
Pascal Coutet, on vient d'entendre un extrait du deuxième film de Steven Spielberg, le très connu Dents de la mer, hein, qui est sorti en 1975, qui a été qualifié pour la première fois dans l'histoire du cinéma de blockbuster. Et on a mis bout à bout dans ce qu'on vient d'entendre le début en fait des Dents de la mer, donc le moment où une jeune fille se jette à la mer pendant une soirée et on entend effectivement cette invitation à un jeune homme à l'accompagner dans sa baignade nocturne. Et puis juste après des cris, le thème des Dents de la mer, bien connu lui aussi. Et puis après, on a entendu un bout du film qui se situe plutôt à la fin. C'est le moment où le requin est traqué à la fois par le chef de la police Brody, un vieux pêcheur Quint, et puis un expert en océanologie qui s'appelle Hooper, qui est incarné par Richard Dreyfuss. Et donc ce vieux pêcheur Quint raconte comment en 1945 son navire a été torpillé par la marine japonaise et comment il s'est retrouvé avec ses camarades face au requin. Et ce qui est intéressant dans ces deux extraits, c'est que effectivement le requin ne fait que s'entendre, ne fait que se décrire par les yeux, par les bruits, mais on ne le voit jamais. C'est un monstre sans vie, c'est un monstre qui est pour le coup l'altérité radicale avec la vie de l'homme.
Oui, c'est exactement ça. Il y a, juste pour introduire, différentes formes de monstruosité chez Spielberg. Alors, celui qu'on découvre dans Les Dents de la mer, c'est le monstre, effectivement, comme vous le disiez, qui est complètement hétérogène à l'homme, hein, qui n'a rien à voir avec lui, mais qui est une force de mort et qui s'oppose à l'homme, qui nie véritablement l'humain. Alors, sur les deux extraits, très très intéressant et très important qu'on a entendu, juste pour situer, juste avant l'attaque de la jeune fille dont on a entendu les hurlements, juste après un générique très très bref où on voit le producteur et les trois acteurs principaux, eh bien on a un plan qui est le tout premier du film. On voit les fonds sous-marins, c'est important, filmé en caméra subjective avec déjà le thème du requin qui le situe. Et évidemment, on ne voit pas le requin puisque c'est en caméra subjective, mais vu l'affiche, vu le buzz, tout le monde sait qu'évidemment c'est le requin. Et alors cette idée que le requin surgit du fond de la mer, parce qu'il surgit vraiment des tréfonds, hein, et effectivement dans les cris de la jeune fille que l'on voit, on voit qu'elle est happée. Et puis, quand elle est vraiment happée, après, la mer redevient totalement calme. Et il me semble que cette idée de surgissement des profondeurs est liée à quelque chose qui est très important dans la, je dirais, dans l'histoire et la culture américaine. C'est cette notion de wilderness, hein, qu'on peut traduire par la nature sauvage. Hein, bon, pour rappeler en deux mots de ce dont il s'agit, quand les 13 colonies installées à l'Est ont acquis l'indépendance pour devenir les États-Unis, toutes ces États-Unis se considéraient comme la civilisation. Et tout ce qui était à l'ouest, eh bien, était considéré comme une nature vierge, sauvage et soi-disant inhabitée. Et la limite entre la civilisation et la wilderness, c'est ce qu'on appelle la frontière. Et la conquête de l'ouest a consisté à repousser, à faire s'accroître la civilisation et se réduire à la wilderness. Et la frontière s'est donc déplacée sur tout le continent américain jusqu'à la côte pacifique. Ce qui voulait dire qu'à ce moment-là, wilderness était éradiquée et que l'assimilation occupait tout le territoire américain, moyennant le génocide des Indiens. Et la wilderness semblait avoir disparu. Mais en fait, non, elle a disparu, je dirais, dans son horizontalité, sa dimension purement horizontale, à la surface du continent, mais elle ressurgit, en fait, dans sa verticalité. Et en fait, le surgissement du requin, des profondeurs de l'océan, qu'on voit très bien donc dans le premier plan, eh bien, il me semble que c'est le retour, si ce n'est la revanche de la wilderness, hein, qui surgit verticalement du fond, vers la surface pour détruire la civilisation, quoi. Donc ça me semble assez clair. On peut aussi très vite rappeler que dans la guerre des mondes, les machines des extraterrestres, les tripodes, sont enfouies dans le sol américain depuis des millénaires. Donc là aussi, c'est ce ressurgissement des profondeurs de cette nature sauvage, quoi.
Et c'est vrai qu'on pourrait faire une opposition entre d'un côté ces monstres, on va dire très bêtement, très simplement, ces méchants monstres qui surgissent du fond de la mer, du fond des entrailles de la terre, et puis à l'inverse, ces monstres qui, pour le coup, eux, se situent dans les airs, qui seraient les extraterrestres, on va avoir l'occasion d'en reparler, mais déjà, il y a une distinction à faire aussi entre ce qui est de l'ordre de l'élévation et ce qui est de l'ordre de ce qui est enfoui, de ce qui se terre et de ce qui va en fait nous ramener à une condition très limitée en fait de l'homme. Il ne va pas, c'est pas une ouverture des perspectives, c'est le ramener en fait, lui faire le confronter à l'expérience de ses propres limites et de l'enfermement dans lequel il est.
Absolument, oui. Et je voudrais en dire deux mots, mais peut-être avant cela, parce que ça pose le problème, c'est comment vaincre le monstre, quoi. Bon, sachant qu'il est destructeur. Mais je voudrais revenir sur l'extrait qu'on a entendu de la discussion donc, entre Quint, Hooper
et Brody.
Et il me semble que là, il y a un concept que j'emprunte à Gilles Deleuze, qui me semble tout à fait intéressant pour comprendre ce dont il s'agit. C'est le concept de bordure, de ligne de bordure élaborée par Deleuze. En deux mots, la bordure, c'est la limite au-delà de laquelle une multiplicité change de nature. Et donc, la référence évidente, c'est Moby Dick. Hein, la bordure, c'est Moby Dick, la banane blanche, et le requin géant, c'est Moby Dick, bien entendu. Le problème, c'est qu'on va se dire, mais comment on peut parler de multiplicité alors que dans les Dents de la Mer, on ne voit, et au bout d'une heure, qu'un seul requin. Donc, où elle est la multiplicité? Eh bien, elle est, vous nous l'avez fait entendre. La multiplicité, c'est la multiplicité des requins qui dévorent tous les marins coulés par les torpilles japonaises et qui se font dévorer les uns après les autres. Mais cette monstruosité, il n'y a pas de flashback, hein, on la voit jamais à l'image, elle est uniquement dans le récit de Quint, qui d'ailleurs, c'est une scène qui a été réécrite, hein, puisque c'est Paul Schrader qui a écrit cette scène, alors que c'est pas lui qui a fait le scénario, bon. Et on comprend à ce moment-là très bien. Alors Quint, déjà, vu la tête qu'il a, il est vraiment pris dans un devenir requin, ça on peut le dire, hein, comme Ahab était pris dans un devenir baleine. Mais on voit très bien qu'ici, en fait, la ligne de bordure, c'est le requin géant. Et lui, il est de l'ordre du visible. Mais la multiplicité, elle est de l'ordre du discours, dans l'ordre du discours. Et de ce point de vue-là, le monstre, c'est vraiment la bordure de la multiplicité. Je crois que c'est une position très particulière du monstre.
Il y a une double limite aussi en fait que dépasse le monstre sur lequel, parce que le monstre c'est précisément ce qui joue avec les écarts, qui dépasse nos normes, qui va les remettre en question. Il y a effectivement, comme vous l'avez dit, la confrontation entre la nature face à la culture, mais il y a aussi, on va dire, quand même le miroir que projette le monstre à l'homme. Alors c'est une idée complètement admise, cette idée de monstre miroir de l'homme. Néanmoins, en fait, le film effectivement se fonde sur le fait qu'on ne fait que parler du monstre, on ne fait que raconter le récit du monstre, sa peur du monstre, mais on le voit très peu. Et en fait, on voit seulement des hommes. La multiplicité, c'est celle des hommes qui se déchirent. C'est Brody, ce nouveau chef de la police qui n'arrive pas à s'épanouir sur cette île d'amitié. C'est justement cette île qui s'appelle Amitié, qui veut dire amitié, où le lien entre les hommes est impossible, si ce n'est par intérêt, où ce maire finalement ne veut pas fermer les plages parce qu'il, pour des raisons, il veut faire sonner, dit-il, le tiroir-caisse pendant l'été. Donc l'impossible, la limite que rencontre l'homme, c'est lui-même. Ce n'est pas tant le monstre, c'est lui-même.
Oui, d'ailleurs, je pense que tout à l'heure, on pourra en reparler sur d'autres formes de monstruosité. Mais justement, ce qui est intéressant dans cette idée de limite, c'est qu'on a un peu l'impression que dans les trois chasseurs de requins, puisque celui-ci, effectivement, n'apparaît qu'au bout d'une heure de film sur un film d'environ deux heures.
Hein. Et encore, le moment où on le voit vraiment, c'est justement après cette conversation-là, le lendemain, le moment où il va être face à face et exactement. Où, justement, Quint va devenir requin, pour le coup.
Voilà, et se faisant dévorer avec lui, bon, bref. Il me semble que sur la notion de limite, il y a une idée intéressante, c'est que, comment dire, ceux qui semblent justement pouvoir, les personnages, hein, qui semblent pouvoir dépasser la limite qui est cette confrontation avec le requin géant, donc Hooper, le scientifique, qui a des tas de poisons pour tuer le requin, qui a une cage en acier, etc., c'est l'échec total. Quint, le vieux baroudeur, vieux loup de mer, pris dans son ovni requin, il se fait dévorer.
Oui, c'est trop bête d'ailleurs, parce que vraiment, c'est d'une subité, il glisse.
Il glisse.
Il glisse, il se fait manger alors qu'il a quand même évité le massacre de 1945. Exactement. De l'Indianapolis, se retrouver au milieu de la mer, entouré de requins. Il fait partie des seuls rescapés et il glisse face à ce requin.
Il se fait bouffer. Ouais. Et donc, ces deux personnages dont on pourrait croire qu'ils sont vraiment à la limite où ils ont atteint la limite où ils peuvent détruire le monstre, le requin, ils n'y arrivent pas. Et celui qui réussit, c'est Brody, hein, qui est vraiment un individu extrêmement banal. Vous avez expliqué sa position dans l'île où c'est pas très intéressant, ce qui fait que c'est vraiment le type banal, l'homme ordinaire, le monsieur tout le monde, hein, qu'on voit dans presque tous les films de Spielberg. Et c'est lui qui, par la ruse, hein, va pouvoir vaincre le monstre. Donc en fait, celui qui se situe vraiment à la limite où il est possible de détruire le monstre, c'est pas du tout celui qu'on attend, le vieux loup de mer ou le scientifique suréquipé. C'est le type ordinaire qui a l'idée de faire manger par le monstre une bouteille d'oxygène et de tirer dessus pour le faire exploiter, quoi. Et pour le faire exploser, pardon. Donc, de ce point de vue-là, la bonne limite pour vaincre le monstre, eh bien, c'est là où se situe l'homme ordinaire.
Ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que depuis le début de la semaine, on entend cette idée que c'est l'homme ordinaire qui est au cœur des films de Spielberg. Et plus il y a d'effets spéciaux, plus l'homme ordinaire est en fait le héros. C'est un paradoxe qu'exploite complètement Spielberg à travers ses films. Et plus on s'y connaît, plus on est intelligent, moins on réussit en fait avec Spielberg. Quel est cet éloge de l'homme ordinaire que nous propose là Spielberg? Que veut-il dire avec cet homme ordinaire?
Je pense qu'il y a quand même une leçon d'humilité. D'ailleurs, pour évoquer brièvement un autre film, La Guerre des Mondes, le héros dont j'avais oublié le nom du personnage d'ailleurs, mais qui est joué par
Tom Cruise.
Bon, eh bien, ce qu'on voit quand même dans La Guerre des Mondes, c'est que, vous en avez déjà parlé un petit peu, que c'est ce qui détruit les aliens, alors eux, très agressifs, violents envers les hommes. Ce qui les détruit, c'est la nature. Bon, les bactéries, quoi. Vous avez lu l'incipit de La Guerre des Mondes de Wells il y a quelques jours.
Lundi, oui.
Et cette nature, elle est explicitement, hein, c'est dit dans le film, une création divine. Bon. Ce qui veut dire que dans La Guerre des Mondes, là, l'homme ne peut pas vaincre le monstre, c'est Dieu qui le détruit. La conclusion est extrêmement religieuse. Mais néanmoins, Tom Cruise, c'est un grutier. Bon, très fort, très très bon grutier, mais c'est juste un grutier. C'est le type banal qui va pas pouvoir détruire les extraterrestres parce que les hommes ne le peuvent pas, mais qui néanmoins va pouvoir sauver sa famille, sauver sa petite fille, sauver en partie son fils parce qu'il fiche le camp, et qui dans cette espèce de panique généralisée et dans cette espèce de retour à l'état de nature qui était évoqué lundi, un état de nature au bien, hein, l'homme est un loup pour l'homme, eh bien Tom Cruise va pouvoir arriver comme ça au moins à échapper au monstre, à la monstruosité, et peut-être sauver sa fille, sachant que lui-même est monstrueux, puisqu'il va quand même assassiner le personnage joué par le nom m'échappe, quoi, dans la cave là.
Pareil, le nom m'échappe aussi.
Il va l'assassiner et il va mettre le casque avec de la musique sur les oreilles de sa petite fille pour qu'elle n'entende pas le meurtre, mais elle n'entend que ça. Et en fait, il est lui-même destructeur. Il y a aussi une part de monstruosité un petit peu humaine parce qu'il tue comme un type de sang-froid pour pas que les aliens les repèrent.
Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Je vous remercie, professeur Malcolm, mais je crois que les choses sont un peu différentes de ce que vous et moi créons.
Oui, je sais, elles sont pires.
Non, mais attendez, nous n'avons même pas visité encore
le parc. Donald, laissez-le parler. Il n'y a pas de raison, je veux entendre le point de vue de chacun, vraiment.
Mais John, vous ne voyez pas le danger inhérent à ce que vous faites ici. Le pouvoir génétique est la force la plus terrible que la planète ait connue, mais vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père.
Ce n'est vraiment pas le moment de commencer à énoncer des généralités.
Si vous permettez, je vais vous dire que le problème qu'il y a avec le pouvoir scientifique dont vous usez ici, ne requiert aucune discipline pour l'atteindre. Vous avez assimilé les travaux des autres et poursuivi dans la même voie. Vous n'avez pas acquis la connaissance par vous-même, alors vous ne prenez aucune responsabilité en cela. Vous vous êtes hissé sur des épaules de génie et, pour accomplir quelque chose le plus vite possible, et avant même de savoir ce que vous aviez, vous l'avez breveté, emballé dans un joli papier cadeau plastique, et maintenant, vous le vendez. Voilà, vous allez le vendre sans ça.
Écoutez, je crois que vous ne nous jugez pas à notre juste valeur. Nos savants ont fait des choses que personne n'avait faites avant eux.
Oui, mais vos savants étaient si préoccupés parce qu'ils pourraient faire ou non qu'ils ne se sont pas demandé s'ils en avaient le droit.
Les condors sont en voie de disparition. Et non, si je voulais créer... Non, si je voulais créer une volée de condors sur cette île, vous ne feriez aucune objection.
Non, attendez, ce ne sont pas des espèces que le déboisement a fait disparaître. Ou la construction d'un barrage, par exemple. Non, les dinosaures ont eu leur chance. C'est la nature elle-même qui les a fait disparaître.
Je ne peux pas comprendre cette attitude rétrograde, en particulier chez un savant. Je veux dire, comment peut-on sentir qu'on est à l'aube d'une découverte et ne pas agir?
Donc, qu'est-ce qu'il y a de si beau dans la découverte? C'est un acte violent de pénétration qui marque au fer rouge ce qu'il explore. Ce que vous appelez découverte, je l'appelle viol de la nature.
Pascal Couteau, on vient de passer à un autre film, c'est Jurassic Park, et au tout début de l'extrait, incroyable, le personnage dit ce manque d'humilité face à la nature. On vient justement de parler de l'humilité. Dans cet extrait, le généticien Hammond présente son parc d'attractions, donc parc d'attractions avec des dinosaures ou des créatures éteintes par l'évolution naturelle, par la nature elle-même, sont ressuscitées par le pouvoir de la science. Et là, on entend à côté de lui le scientifique Hammond, soi-disant ayant une attitude rétrograde, qui dit ce n'est pas seulement de perturber l'ordre de la nature. Ce qui se passe ici, c'est carrément un viol de la nature. Et effectivement, là, le véritable monstre, ce ne sont pas tant les dinosaures, c'est les hommes eux-mêmes qui, en fait, ne veulent pas en fait se rendre comme maître et possesseur de la nature, comme dirait Descartes, mais vraiment se font maître et possesseur de la nature. Ils se font Dieu. Ils vont pécher par orgueil ici.
Tout à fait. Le scientifique qui contredit, c'est Malcolm. Hein.
Excusez-moi, j'ai dit Hammond, Malcolm.
Peu importe.
Vous avez raison.
Mais effectivement, le viol de la nature. Bon, on retrouve, nous évoquions la guerre des mondes brièvement il y a quelques instants. Viol de la nature, et au début, Malcolm évoque effectivement cette nécessaire humilité qui est complètement opposée au projet prométhéen de Hammond. Et donc, il y a toujours que le film a une forte dimension religieuse très marquée, ou que ça soit plus discret comme dans Jurassic Park, il y a toujours cette idée chez Spielberg que on ne peut pas devenir maître et possesseur de la nature, que c'est une hérésie, une impossibilité, et que par conséquent il faut respecter la nature, ne pas la violer, il faut rester humble envers elle parce que c'est toujours elle qui aura le dessus.
Donc le monstre, quand vous disiez tout à l'heure que c'était la verticalisation, on repassait un mouvement de verticalisation. Cette verticalisation, elle est aussi voulue, défendue par Spielberg. C'est l'idée de la transcendance divine aussi.
Oui, tout à fait. Alors elle est explicite dans La Guerre des Mondes, dans Jurassic Park, puisque, on pourra peut-être en dire quelques mots, c'est la nature qui véritablement chasse les hommes de l'île. Alors, dans Jurassic Park, la nature ne renvoie pas explicitement à une connotation divine, mais enfin, effectivement, il y a quand même un peu cette idée que Dieu a créé les dinosaures il y a des millénaires et des millénaires, donc à une époque où ils ne pouvaient pas rencontrer les hommes. Et la monstruosité, comme vous le disiez à ce moment-là, c'est justement de faire cette rencontre. Et il me semble que les dinosaures, aussi impressionnants soient-ils, hein, les vélociraptors et le tyrannosaure sont très impressionnants, mais les dinosaures, certes, sont monstrueux, mais en fait, c'est plutôt ce qu'ils représentent, et de la faute de l'homme. C'est-à-dire que les dinosaures, c'est un passé archaïque, des millénaires, que n'a jamais connu l'homme, et ce passé archaïque surgit dans le présent du fait de la science humaine, hein, toujours très négativé chez Spielberg, hein. Et donc c'est l'homme qui crée cette rencontre plus qu'improbable, cette rencontre quasi monstrueuse entre ce passé archaïque et le présent. Si bien qu'on peut dire que les dinosaures sont monstrueux métaphoriquement. Le vrai monstre, en fait, effectivement, il vient de la tendance prométhéenne de l'homme. Le vrai monstre, c'est la rencontre d'un passé extrêmement lointain et d'un présent actuel. La monstruosité, et effectivement, qui vient de l'activité humaine, le monstrueux, c'est la rencontre qui ne doit pas avoir lieu de l'archaïque et du contemporain.
En fait, c'est l'impossibilité rendue possible par le monstre qui est ici monstrueux. C'est ça ce que vous dites.
Absolument. Ce qui est monstrueux, c'est pas tant les bestioles elles-mêmes. Bon, c'est effrayant.
En fait, elles sont plutôt amusantes. C'est-à-dire que elles sont divertissantes. Elles font partie du spectacle. Alors que effectivement, on est plus en attente de voir comment les hommes vont réagir. Comment, qui va être le plus monstrueux en fait dans cette course poursuite. Et on parlait d'un mouvement. Enfin, vous parliez d'un mouvement de verticalisation. On pourrait aussi parler d'un mouvement là d'horizontalisation, où en fait, ce film n'est qu'une course poursuite, n'est qu'une fuite en avant du début jusqu'à la fin, et la seule échappatoire possible à cette possibilité du monstre activé par les hommes, c'est véritablement de le fuir.
Absolument. D'ailleurs, effectivement, on parlait tout à l'heure de comment vaincre le requin géant. Et ben là, à la fin de Jurassic Park, on ne peut pas vaincre la nature, et surtout cette nature archaïque qu'on a recréée de manière tout à fait artificielle, ce qui fait qu'à la fin, les survivants quittent l'île en catastrophe et laissent le chaos total s'installer sur cette île. Et dans Le Monde Perdu, qui est donc la sequel de Jurassic Park, à la fin, l'île où vivent les dinosaures, où à nouveau les hommes sont venus pour violer la nature, où des chasseurs sont venus pour s'emparer de dinosaures et pouvoir les exposer un peu à la manière du King Kong de Chotzak et Cooper, pour les exhiber comme des bêtes de foire. Évidemment, c'est un échec total. Et à la fin, Hammond, enfin, semble avoir retrouvé ce qu'on pourrait appeler un minimum de bon sens, mais le sens des limites, surtout. Là, dans le premier, le chaos est total, donc il n'y a plus de limite et il faut s'enfuir le plus vite possible. Par contre, dans le monde perdu, là, Hammond a compris qu'il y a une limite qu'il ne faut pas dépasser, si bien que l'île, qui est une autre île que dans Jurassic Park, mais qui n'est pas très loin, cette île va rester totalement séparée de toute présence humaine. Aucun homme, sous aucune forme, n'a plus le droit d'y aller. C'est Hammond qui explique. Et en maintenant séparée cette île de la présence et de l'arraisonnement humain, on pourrait dire, ça permet l'éclosion d'un système, d'un écosystème, on pourrait dire préhistorique, qui semble harmonieux. D'où le dernier plan, on voit des dinosaures plutôt paisibles qui sont là, et puis un ptérodactyle qui vient se mettre sur une branche. Et voilà, la caméra panote sur lui, et c'est la dernière image du film. Donc effectivement, la seule chose là, ici, qui peut sauver les hommes de leur monstruosité, eh bien, c'est de poser des limites extrêmement strictes.
C'est de poser des limites, mais c'est aussi en fait de dire que la nature se régule d'elle-même. Parce que c'est ça aussi qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, l'écosystème se développe par lui-même. En fait, c'est l'intervention humaine qui est sans cesse, pointée du doigt. Mais ce qui est intéressant aussi avec cette intervention humaine, c'est que cette île, ce parc, Jurassic Park, c'est exactement le film que fait Spielberg lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mise en abîme où vous avez parlé de King Kong. Et effectivement, la référence est explicite, le clin d'œil est explicite. Et ce film est à l'image, est un clin d'œil à la fois à l'histoire du cinéma, à l'industrie du cinéma, qui à force d'effets spéciaux veut toujours en faire plus. Mais finalement, en fait, du coup, c'est une manière pour Spielberg, on a l'impression lui-même de se critiquer en tant que démiurge qui en fait toujours des tonnes, et en même temps une manière de répondre aux critiques qu'on lui adresse comme le maître du blockbuster, et en même temps une forme d'ironie où il va dire oui, en fait, je joue avec les limites, mais regardez, en fait, je vous montre des monstres, mais je ne dépasserai jamais certaines limites, parce que pour moi, de toute façon, la véritable mesure, ça restera l'homme ordinaire. Vous pouvez bien en prendre plein les yeux, vous resterez des hommes ordinaires, et je ne vous dirai pas autre chose que ça, vous êtes des hommes ordinaires.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour aller dans votre sens, on voit très bien que, en fait, les véritables responsables du chaos, c'est pas les dinosaures, c'est les hommes. N'oublions pas que dans Jurassic Park, ce qui fait que les dinosaures sont lâchés sur toute l'île, alors qu'il y a des barrières électriques avec je sais pas combien de volts dessus, c'est parce qu'il y a un traître dans l'équipe qui vole des embryons de dinosaures pour les vendre très très cher, et qui donc qui coupe tous les systèmes électriques. Et qui permet ainsi aux dinosaures de se répandre sur toute l'île et de menacer, hein, voire de tuer effectivement les hommes qui sont dessus. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est l'intervention de l'homme qui met complètement en cause un écosystème qui, vous le disiez, qui peut s'auto-réguler. Et là, à un moment, il y a une remarque très intéressante où la jeune femme, ça doit être Laura Dern, je crois, dit à Malcolm, Jeff Goldblum. Nous sommes là pour observer sans modifier. Bon, observer mais sans modifier. Et Malcolm répond, oui, ceci est une impossibilité scientifique. Et là, évidemment, la référence, c'est la mécanique quantique, hein, et en particulier Heisenberg, hein, qui rappelle que quand on est dans la physique des particules, hein, à partir du moment où on observe une particule, on modifie son comportement. L'exemple type, par exemple, on va éclairer une particule, on va l'éclairer, donc un photon, un grain de lumière va venir heurter la particule étudiée et donc modifier son comportement. Donc de toutes les manières, au niveau de la microphysique, hein, dans la physique quantique, eh bien l'observation modifie l'objet, ce qui fait qu'en fait le phénomène, c'est à la fois le sujet et l'objet étudié. Et dans Jurassic Park et Le Monde Perdu, eh bien, la présence des hommes soi-disant purement observateurs, parce qu'il y a les observateurs et les chasseurs, hein, il y a deux troupes, les observateurs, à partir du moment où ils viennent, ne serait-ce que pour observer, ils interviennent, ils transforment l'autorégulation de la nature, et si bien que l'île devient à la fois une espèce d'unité, catastrophique d'ailleurs, entre les hommes et les animaux préhistoriques qui sont là. Donc en fait, le seul moyen effectivement d'arriver à empêcher que l'observation perturbe le système, l'écosystème, eh bien, c'est de laisser effectivement la nature se réguler elle-même et de rester dans l'ignorance de ce qui s'y passera, quoi.
Les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h33, et dans cette semaine spéciale à l'occasion du Festival de Cannes sur France Culture, c'est avec Steven Spielberg que nous cheminons, et aujourd'hui, pour ce quatrième et dernier moment, c'est de monstres que nous parlons, des Dents de la Mer, de Jurassic Park ou encore du méchant Amon Göth dans La Liste de Schindler, en compagnie de Pascal Coutet, qui enseigne le cinéma et l'esthétique au département art du spectacle de l'Université de Caen Normandie, et qui est auteur de Forme et Obsession du cinéma américain contemporain, coécrit avec Vincent Amiel et disponible aux éditions Klingsic.
L'homme, et en général tout être raisonnable, existe comme fin en soi, et non pas simplement comme moyen dont telle ou telle volonté puisse user à son gré. Dans toutes ses actions, aussi bien dans celles qui le concernent lui-même que dans celles qui concernent d'autres êtres raisonnables, il doit toujours être considéré en même temps comme fin. les êtres dont l'existence dépend, à vrai dire, non pas de notre volonté, mais de la nature, n'ont, quand ce sont des êtres dépourvus de raison, qu'une valeur relative, celle de moyens. Et voilà pourquoi on les nomme des choses. Au contraire, les êtres raisonnables sont appelés des personnes parce que leur nature les désigne déjà comme des fins en soi, c'est-à-dire comme quelque chose qui ne peut pas être employé simplement comme moyen et qui, par suite, limite notre libre arbitre et est un objet de respect. Ce ne sont donc pas des fins subjectives dont l'existence, comme effet de notre action, a une valeur pour nous, ce sont des fins objectives, c'est-à-dire des choses dont l'existence est une fin en soi-même, et même une fin telle qu'elle ne peut être remplacée par aucune autre, au service de laquelle les fins objectives devraient se mettre, simplement comme moyen. Sans cela, en effet, on ne pourrait trouver jamais rien qui eût une valeur absolue. L'impératif catégorique sera donc celui-ci. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen.
Mon premier jour ici, il m'a frappée parce que j'avais jeté les os qui restaient du dîner. Pour ces chiens, vous comprenez. Et alors je lui ai dit... Je ne sais pas comment je lui ai dit ça. Je ne pourrai jamais le dire maintenant. Je lui ai dit, pourquoi vous me frappez? Il a dit, la raison pour laquelle je te frappe maintenant, c'est parce que tu as demandé pourquoi je te frappais.
Je sais ce que vous avez enduré, Hélène.
Ça n'a plus d'importance. Maintenant, je l'ai accepté.
Accepté?
Un jour, il va me tuer.
Non. Il ne va pas vous tuer.
Je sais. Je vois des choses. Nous étions sur le toit mardi. Le jeune Lichiek et moi, et nous avons vu le Herr Commandant sortir par l'entrée principale. Et au bas des marches, dans le patio, juste là, en dessous de nous. Et arrivé à la dernière marche, il a sorti son revolver et il a tiré à bout portant sur une femme qui passait. Une femme qui portait un ballot de linge dans la gorge, juste une femme qui allait quelque part comme ça. Elle n'était ni plus grosse, ni plus maigre, ni plus lente, ni plus rapide que n'importe qui d'autre. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle avait fait. Et plus on fréquente le Herr Commandant, plus on se rend compte qu'il n'y a aucune règle à suivre avec lui. On ne peut pas se dire une fois pour toutes, si je suis ces règles, je n'ai plus rien à craindre.
Pascal Coutet, on a parlé des hommes face aux monstres, du monstre miroir de l'homme et qui révélait la monstruosité chez les hommes, entre les hommes. Là, c'est carrément la monstruosité logée en l'homme, celle d'Amon Goethe, celle du nazisme dont il est question dans la liste de Schindler. On vient d'entendre un extrait justement de ce film. Hélène, une jeune femme juive employée par le commandant Amon Goethe dans le camp, employée comme domestique, raconte qu'elle n'a plus aucune règle, c'est l'arbitraire pur, c'est la folie pure, l'absence de logique. Elle raconte ça à Schindler. Et Hermann Goethe semble illustrer ce que Kant dit dans ses fondements de la métaphysique des mœurs, à savoir en fait qu'il agit de la manière dont il ne traite il traite uniquement une personne comme un moyen et jamais comme une fin. Alors là, on n'est plus du tout dans le franchissement des limites, on est carrément dans l'absence de règles. Alors comment comprendre un monstre qui n'est plus un écart par rapport à des normes, mais qui, pour le coup, n'a plus aucun étalon de mesure. On ne peut plus le comparer à rien. Ce n'est plus la monstruosité. On pourrait dire que c'est peut-être l'horreur.
La monstruosité, l'horreur, peut-être l'un et l'autre. Il est clair, évidemment, que pour Spielberg, et la liste de Schindler en témoigne, que le génocide, hein, la Shoah, c'est quand même la monstruosité radicale qui dépasse complètement le pensable et qui est peut-être encore pire d'une certaine manière que la monstruosité des dinosaures, des requins, des méchants aliens qui sont complètement hétérogènes à l'homme.
Parce qu'elle est à visage humain, justement.
Elle est à visage humain, mais est-ce encore un visage humain ? On peut se poser la question. Et je veux dire, là, on s'aperçoit que le monstre, c'est pas simplement l'altérité, l'hétérogénéité, c'est l'autre qui est inscrit dans le même. C'est la normale qui est au sein du normal. C'est cette fameuse banalité du mal qu'évoque Hannah Arendt. Donc vraiment, ça, on est dans l'inhumain comme ce qui, dans l'homme, nie radicalement celui-ci. Et donc là, évidemment, Kant s'impose. D'ailleurs, j'ai toujours été un peu surpris que je n'ai jamais lu en France de textes qui portent sur une approche kantienne de certains films de Spielberg, alors que visiblement aux États-Unis, les chercheurs qui travaillent sur Spielberg, c'est une interprétation que j'ai découvert après avoir fait mon propre travail, c'est une interprétation qui est déjà assez bien établie. Alors on pourrait la préciser un peu puisqu'on a entendu le texte et vous l'avez commenté. Il y a cette dimension, je dirais, de métonymie. Hein. Stern, le comptable juif de Schindler, dit à un moment. Qui sauve un homme, sauve l'humanité tout entière. Donc on est dans un principe métonymique où un seul homme, un seul juif sauvé, eh bien, il sauve l'humanité.
Sauve l'humanité.
Et on retrouve également dans la monstruosité de la guerre, hein, qui est aussi une obsession spielbergienne, le soldat Ryan, soldat complètement banal et ordinaire.
Hein. Là, c'est le soldat inconnu, en fait. Hein.
C'est le soldat qui n'a rien de particulier, quoi. Et le côté très lisse de Matt Damon est parfait pour ça. Mais il faut impérativement le sauver pour le capitaine Miller, hein, Tom Hanks, parce que le soldat Ryan, comme un seul juif sauvé par Schindler, eh bien, c'est l'humanité tout entière qu'on sauve.
On en a parlé hier avec Christophe Bouton pendant l'histoire de la valeur d'une vie, effectivement, qu'une vie sauvée revient à sauver l'humanité, ce qui dépasserait un simple calcul utilitariste, mais pour acquérir une forme de dimension éthique. Mais qu'est-ce qui est encore à sauver dans l'humanité ? C'est-à-dire que comment, là, la question de vaincre le monstre se pose, parce que Hermann Goethe, le nazisme est à visage humain, est-il encore humain ? La question, effectivement, se pose, en tout cas, il en a l'apparence. À se demander, en fait, est-ce qu'on a en fait envie de sauver ce monstre-là ? Comment est-ce qu'on le vainc, en fait ? Comment est-ce qu'on lui prouve qu'il a tort ? Est-ce qu'on sauve des personnes pour lui opposer, pour sauver ? Parce que si sauver une personne revient à sauver l'humanité, a-t-on encore envie de sauver ce genre de personne ? Spielberg nous oblige à faire une sorte de hiérarchie avec cette idée de monstre entre les personnes. C'est peut-être ça d'ailleurs ce qui est monstrueux, en fait, c'est d'opposer ainsi le bien et le mal, et de nous obliger tout le monde est d'accord sur le nazisme, bien évidemment, mais en revanche, on se demande en fait quelles sont les solutions là pour vaincre le monstre. Est-ce que c'est de le montrer au cinéma qui permet de l'ancrer, en fait, de le rappeler à la mémoire, et qui suffit là à se dire, ok, une vie égale une humanité, on sauve l'humanité.
Alors là, effectivement, ce qui se pose et qui s'impose, c'est que, comment dire, vaincre le monstre, c'est véritablement sauver l'humanité, au sens du texte de Kant qu'on a entendu tout à l'heure. Sauver l'humanité, c'est permettre, et donc incarner dans un juif qu'on sauve, un soldat banal, sauver deux individus métonymiques, c'est permettre que reviennent, contre Hermann Goethe, contre le nazisme, contre l'horreur et la monstruosité à visage presque humain, et encore...
Il n'y a que le visage, en fait. Il n'y a que l'apparence.
Oui, il y a vraiment à peine. Et donc, là, vaincre le monstre et donc sauver l'humain, c'est faire ressurgir la personne humaine. La personne humaine, au sens véritablement kantien, hein, le texte du fondement de la métaphysique demeure et correspond exactement à cette idée. C'est-à-dire, il faut un peu bien préciser, une personne, c'est une fin en soi qui ne peut jamais être un moyen ou un instrument. Et de ce point de vue-là, qu'il s'agisse du soldat Ryan, qu'il s'agisse de la ligne de Schindler, ce qui apparaît ainsi sous une forme très particulière, c'est ce que Kant appelle le règne des fins. Règne des fins avec... les fins, c'est les fins en soi, c'est-à-dire c'est les hommes et plus généralement pour Kant, les êtres raisonnables finis. Et ce règne des fins, bien entendu, ne sera jamais réalisé. Mais pour autant, il est essentiel parce que le règne des fins chez Kant, c'est ce que Kant appelle une idée avec un I majuscule, hein, une idée étant un concept auquel ne peut correspondre aucune intuition empirique, aucune expérience empirique. Mais néanmoins, le règne des fins comme idée, comme toutes les idées de la raison d'ailleurs chez Kant, le règne des fins a un rôle fondamental qui est celui d'être un horizon régulateur. Et à partir de cette idée, qui n'est pas une idée qu'on a dans la tête, qui est une idée véritablement qui s'impose dans l'ordre de l'éthique et du sujet moral. Et cette idée du règne des fins comme tous les êtres raisonnables finis, véritablement des fins en soi, eh bien permet donc, dans l'empirie, pour le coup, dans la factualité, de nous indiquer comment bien agir. C'est la question que pose le soldat Ryan, très vieux, quand il vient en Normandie voir la tombe du capitaine Miller et qui demande à sa femme, alors que toute sa vie s'est écoulée, est-ce que j'ai été un homme bon ? Il se pose la question. Alors que dès la bataille où le capitaine Miller meurt, le capitaine Miller lui grisse à l'oreille, mérite-le. Et on comprend qu'il l'a mérité, mais c'est jamais montré. Et jusqu'à la fin, il est déjà très vieux, il demande s'il est un homme bon, c'est est-ce que, véritablement, il a agi de telle sorte que les hommes puissent être considérés comme fin en soi et non comme instrument. Alors, ceci dit, deux mots sur ce point, ceci dit, il faut bien voir que dans l'empirie, hein, c'est-à-dire dans le monde des phénomènes, on n'aura jamais le règne des fins. C'est-à-dire, l'impératif dit bien ne jamais traiter les hommes simplement comme des moyens, mais toujours aussi en même temps comme des fins. Donc on a bien conscience, enfin Kant a bien conscience que dans l'expérience empirique, toujours on utilisera les autres comme des instruments, mais l'impératif dit pas seulement comme des instruments, mais aussi comme des fins en soi. Et là, le règne des fins, où là, il n'y a plus que des fins en soi, nous donne cet horizon régulateur où on peut s'efforcer, eh bien, d'instrumentaliser au minimum les hommes et les considérer comme fins en soi, je dirais, au maximum.
On veut toujours que l'imagination soit la faculté de former des images. Or, elle est plutôt la faculté de déformer les images fournies par la perception. Elle est surtout la faculté de nous libérer des images premières, de changer les images. S'il n'y a pas changement d'image, union inattendue des images, il n'y a pas imagination, il n'y a pas d'action imaginante. Si une image présente ne fait pas penser à une image absente, si une image occasionnelle ne détermine pas une prodigalité d'images aberrantes, une explosion d'images, il n'y a pas imagination. Il y a perception, souvenir d'une perception, mémoire familière, habitude des couleurs et des formes. Le vocable fondamental qui correspond à l'imagination, ce n'est pas image, c'est imaginaire. La valeur d'une image se mesure à l'étendue de son auréole imaginaire. Grâce à l'imaginaire, l'imagination est essentiellement ouverte, évasive. Elle est dans le psychisme humain l'expérience même de l'ouverture, l'expérience même de la nouveauté. plus que toute autre puissance, elle spécifie le psychisme humain. Le vrai voyage de l'imagination, c'est le voyage au pays de l'imaginaire, dans le domaine même de l'imaginaire. Nous n'entendons pas par là une de ces utopies qui se donnent tout d'un coup un paradis ou un enfer, une Atlantide ou une Thébaïde. C'est le trajet qui nous intéresserait, et c'est le séjour qu'on nous décrit.
Alors Pascal Coutet, on a entendu la musique de Rencontre du troisième type, c'est la fin donc de cette rencontre où le héros Roy Neary part sur le vaisseau en fait. Alors là on est carrément dans l'imagination, comme le dit Bachelard dans L'air et les songes, qui effectivement n'est pas la capacité de former des images, mais qui en fait est la capacité de former des images qu'on a déjà perçues. Et ça, chez Spielberg, seul l'alien, l'extraterrestre, nous permet en fait d'ouvrir cet horizon dont vous parliez déjà avec l'idée régulatrice de Kant, d'horizon, d'ouverture en fait à autre chose qu'à cette sorte d'ordinaire qui est à la fois une limite mais qui est aussi un enfermement.
Tout à fait. Alors juste pour situer très très brièvement, là on arrive à un monstre, je dirais, qui est gentil d'une certaine manière, pour c'est un peu bébête. C'est un monstre qui est véritablement hétérogène à l'homme, et en ce sens qui est bien anormal, qui est l'autre, mais qui n'est pas la négation de l'être humain. Si bien que dans Rencontre du troisième type, et là on l'a très bien entendu, la révélation des extraterrestres, des aliens, aux yeux de Roy Neary, qui est un homme habité par l'enfance, hein, ce qui l'intéresse, lui, c'est pas sa famille, c'est les trains électriques, hein, cette rencontre entre Neary et les extraterrestres conduit à l'anéantissement véritable de sa vie ordinaire. Parce que sa vie ordinaire, entre sa femme et ses enfants, c'est vraiment une prison, c'est un carcan, c'est le carcan de la famille, de la banalité du quotidien. Et donc, Roy Neary, donc joué par Richard Dreyfuss, est vraiment possédé par la découverte des aliens, et ça le conduit à détruire sa famille, à saccager sa maison, et à partir comme ça, hein, sur la route, avec une image de montagne en tête, pour rencontrer les extraterrestres. Hein. Et de ce point de vue-là, la monstruosité des aliens dans Rencontre du troisième type s'oppose complètement à celle de la guerre des mondes, comme la ligne de vie qui s'oppose au vecteur de mort. Et quand Roy Neary part dans le gigantesque vaisseau spatial, hein, le Mothership, c'est parce qu'il est emporté par des forces, on pourrait dire, vitales, qui le dépassent et l'entraînent dans l'ailleurs, dans cet imaginaire qu'évoque Bachelard, qui ne veut pas dire l'irréalité, hein, surtout pas. Hein. Et finalement, rappelons que Roy Neary, quand on le voit partir, il y a toute une équipe de scientifiques qui part dans le vaisseau, avec costumes et compagnie, ils ont tous des lunettes noires, mais pas Roy Neary, parce que en fait, il ne porte pas de lunettes noires parce qu'il voit, il est voyant, il voit le devenir, il voit l'ouvert, il voit l'échappée hors du monde qu'évoquait Bachelard.
Having fun, oh, yeah. Happy, happy, see them jump and run, happy.
Merci beaucoup à vous, Pascal Coutet, d'avoir achevé cette semaine consacrée à Steven Spielberg. Donc, je rappelle que vous êtes l'auteur de Forme et Obsession du cinéma américain contemporain, coécrit avec Vincent Amiel et qui est disponible aux éditions Klingsic. Et puis, quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve demain pour Les Chemins du Vendredi, où j'aurai le plaisir de recevoir le philosophe Tristan Garcia pour La vie intense, une obsession moderne, paru aux éditions Autrement. Tristan Garcia, dont vous trouverez aussi un entretien dans le numéro de mai de Philosophie Magazine, avec qui nous sommes partenaires. Et puis, vous pourrez aussi lire un dossier sur nomades et sédentaires, ou encore un cahier central sur Machiavel et l'art de la guerre. Et puis, quant à vous, chers auditeurs, pour écouter cette émission et celle sur Spielberg de cette semaine sur Steven Spielberg, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page du Nouveau Chemin. Vous pourrez non seulement l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales. Et puis rendez-vous aussi sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour.